bonjour Marcel Dugas.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah, ça va bien. Vous avez un bonjour, vraiment, le dynamique, vous avez l'air en
énergique.
Forme. Vous avez eu 2 semaines de vacances de plus que nous.
Oui, je suis énergisé, prêt à partir.
OK, alors nos attentes, je vous avertis, sont élevées.
Oui, puis ça se peut qu'on ait des questions.
OK, ben j'aurais peut-être pas dû dire.
Alors, on va parler ce matin de cancer. Mais je pense que c'est quand même sous un angle qui peut être plus positif qu'on pense, parce que vous allez parler de l'évolution, de la compréhension de ce cancer, mais aussi des traitements.
Oui, bien, le documentariste américain Ken Burns l'a appelé l'empereur de toutes les maladies, n'est-ce pas? Le cancer touche tout le monde et est vieux comme le monde. Et je sais que c'est un cliché de dire ça, mais je pense que c'est vrai. En 2016, il y a un scientifique d'Afrique du Sud qui a identifié une tumeur cancéreuse maligne dans les os d'un fossile dont on estime l'âge environ 1,7 million d'années. Ce serait le plus ancien cas de cancer recensé. Donc, on n'a pas de données fermes là-dessus, évidemment, mais il semble bien que le cancer a toujours été présent, sans être aussi prévalent qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans l'Antiquité, le cancer est mentionné dans des papyrus égyptiens. Un des premiers à s'intéresser sérieusement à la maladie, ce sera Hippocrate, médecin grec, qu'on désigne souvent comme le père de la médecine occidentale. Il utilisait le terme « carcinos », qui est crabe ou écrevisse en grec, parce qu'il trouvait que visuellement, certaines tumeurs qu'il avait étudiées ressemblaient un peu à un crabe. Il y a un autre médecin grec qui a vécu quelques siècles plus tard, Galien, qui utilisait toujours carcinos pour les tumeurs malignes, mais a opté pour oncos, qui est enflure en grec, lorsqu'il était question d'une tumeur bénigne. On a donc l'origine de carcinogène, oncologie et différents termes rattachés au cancer. Finalement, c'est Celsus, qui est l'auteur d'une encyclopédie médicale dans les premières années de notre ère, qui a latinisé carcinos en cancer, qui est le mot latin pour crabe. La médecine occidentale sera pas mal impuissante face au cancer et à la plupart des autres maladies, me direz-vous, jusqu'au 19e siècle. Dans l'Égypte ancienne, on parle de traiter des tumeurs cancéreuses au sein par cautérisation et on propose des traitements pour d'autres types de cancers avec de l'orge, des dattes et parfois de la cervelle de porc. Hippocrate, dont je vous parlais il y a un instant, était comme beaucoup de ses successeurs pendant des siècles et des siècles, un tenant de la théorie des humeurs. Comme quoi on retrouvait 4 liquides, donc 4 humeurs dans le corps humain, le sang, la bile jaune, la bile noire et la phlegme ou la lymphe. Les 4 correspondaient au chaud, au froid, à l'humide, au sec, ça correspondait aux 4 saisons. Et pratiquement toutes les maladies, physiques ou psychologiques, s'expliquaient par un débalancement des humeurs. On avait trop de l'une et pas assez de l'autre. Un exemple que je peux vous donner, on expliquait souvent les fortes fièvres par un surplus de sang, qui est une humeur chaude, dans l'organisme. Et en faisant une saignée, on pouvait diminuer la quantité de sang dans le corps de la personne atteinte. Et comme ça, on pouvait rétablir l'équilibre ou tuer le patient et la patiente, ce qui arrivait quand même fréquemment à ce moment-là. Et le cancer, comme d'autres maladies, sont traités par des saignées et par des laxatifs, notamment pour essayer de rétablir ces humeurs-là.
Je m'excuse, Marcel, est-ce que c'était aussi répandu que ce qu'on voit dans les films? Je veux dire ça comme ça, parce que souvent, quand les gens sont malades gravement, on voit à une certaine époque, là, des films plus d'époque, on voit toujours le médecin qui arrive pour faire la saignée. Est-ce que c'était le seul remède ou le plus répandu?
Je dirais pas que c'était des remèdes, mais disons que quand on regardait les encyclopédies médicales de l'époque, c'était à peu près considéré comme une panacée. C'était à peu près, on pouvait. Il y a aussi différents autres traitements dont on parlait avec des herbes qui étaient censées, justement, c'était des herbes qui ajoutaient du froid dans l'organisme si on avait trop de chaud. Mais essentiellement, on savait pas trop bien de quoi on parlait et on se disait, mais en faisant ça, on avait le sentiment que ça pouvait donner quelque chose, mais on s'entend que les saignées, les laxatifs pour soigner un cancer, je crois pas tellement en vos chances, c'est le moins qu'on peut dire, mais effectivement, c'était pas mal un remède universel. Et un peu à la différence, d'ailleurs, à peu près à la même période, il y a un traité de médecine chinoise, le Wangdi Neijing, qui présente une illustration d'une tumeur cancéreuse. On y parle de progression du cancer, de métastase, de différentes manières de s'y attaquer. Et on avait la voie spirituelle, la voie pharmacologique, il y avait l'acupuncture notamment. Donc, je ne sais pas si on pratiquait autant la saignée, par exemple, en Chine. On avait d'autres manières d'y arriver qui, elles aussi, nous avaient probablement un taux de réussite assez bas. Quoique là, je m'aventure avant de dire ça, évidemment, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de données par rapport à ça. Galien, je vous en ai parlé un peu tantôt, un peu plus tôt, lui disait qu'on pouvait chirurgicalement retirer des tumeurs. Il avait essayé déjà, mais il croyait que le mieux à faire dans les cas de cancer, c'était de ne rien faire. Selon lui, la mélancolie était la cause principale des cancers chez la femme. Et si on tenait absolument à faire quelque chose, bien, l'exorcisme faisait partie des traitements suggérés. Tout ça pour vous dire qu'on n'avait pas grand solution. Il faudra attendre le 18e siècle avant qu'on commence à avoir une meilleure compréhension du cancer et des facteurs environnementaux qui peuvent le causer. En 1761, il y a un médecin anglais qui a publié un traité intitulé « Cautions against the immoderate use of snuff ». Donc, on faisait le lien entre le snuff, le tabac à priser, donc qui était broyé en fine poudre, et le cancer. C'était la première, mais pas la dernière fois qu'on associait le tabac à cette maladie. Quoique l'ironie dans tout ça, c'est qu'on ne considère plus aujourd'hui que le tabac à priser est cancérigène par rapport à celui qu'on fume, par rapport à celui qu'on consomme de d'autres manières. Autre découverte dans le même esprit, toujours en Grande-Bretagne, on a trouvé que l'accumulation de suie sur le corps des ramoneurs causait des cancers. C'est une profession importante. À l'époque, on se chauffait beaucoup au bois, au charbon. Donc, on n'avait pas de solution, mais on commençait à voir qu'il y avait moyen, dans une certaine mesure, de prévenir certaines formes de cancer. C'était pas le mauvais œil qui s'abattait sur nous, ni un excès de bile jaune ou quoi que ce soit. On va comprendre encore plus de choses à mesure qu'on avance dans le 19e siècle. Il y a un Italien, Domenico Antonio Rigoni Stern, qui va faire ce qui est considéré comme la première grande étude statistique sur la maladie, en se basant sur des données pour la ville de Vérone en Italie entre 1760 et 1839. Il conclut que les femmes mouraient plus du cancer que les hommes, que les cancers du sein et de l'utérus représentaient les deux tiers des cancers mortels chez la femme à ce moment-là. Et certaines de ses conclusions ont été grandement discutées et infirmées, mais il disait par ailleurs que le nombre de cas allait en augmentant à son époque, que le risque de cancer augmentait avec l'âge et qu'on en souffrait moins à la campagne que dans les villes. Donc, il y avait un risque pour la santé quand on vivait au milieu des nuages toxiques des usines à longueur de journée. On commence à pouvoir vraiment combattre, dans une certaine mesure, la maladie au tournant du 20e siècle, surtout après qu'on a amélioré les pratiques d'hygiène et d'asepsie dans les blocs opératoires. Avant ça, on pouvait faire une chirurgie pour le cancer, mais c'était, bon, les gens très souvent ne survivaient pas à l'opération elle-même, peu importe la maladie, si on parvenait à soigner la maladie ou non. En 1895, il y a le physicien allemand Ernst Röntgen qui découvre les rayons X, qui seront utilisés médicalement pour faire du diagnostic et pour la radiothérapie. Un an à peine plus tard, il y a un médecin français qui a fait des expériences de radiothérapie et a vu la tumeur de son patient diminuer sensiblement sous l'effet de ce rayonnement-là. Mais tout ça va se faire à tâtons. Beaucoup de patients et de médecins seront irradiés par la nouvelle technologie. On va vite apprendre qu'on doit en faire un usage très prudent des rayons X, que ça doit se faire dans un cadre médical, ça doit être bien contrôlé. Ou on peut aussi s'en servir pour vendre des souliers, parce qu'on a fabriqué des appareils à rayons X jusqu'au milieu du 20e siècle destinés aux magasins de chaussures où on radiographiait les pieds des clients pour vraiment avoir la pointure exacte qu'il leur fallait.
Ça, c'est une parenthèse que je vous fais. C'est un peu compliqué. Il aurait pu mesurer ça autrement, mais bon.
Mais surtout, on aurait pu mesurer ça sans irradier les gens aussi. Ça, c'est peut-être l'autre élément.
Oui.
Mais il faut dire que c'est à l'époque où on essayait de mettre le plus de plomb possible dans la peinture. On mettait du DDT partout, de l'amiante partout. D'ailleurs, on a fait un lien entre amiante et cancer du poumon dès les années 1930. C'est aussi à l'époque où on avait des publicités. Vous savez, 9 médecins sur 10 fument les cigarettes Chesterfield.
Et oui, etc. Ben oui.
C'était une approche différente à ce moment-là. Et je vois que le temps avance très rapidement, mais je conclue en vous disant que le cancer, ça a été quand même long avant qu'on se dote d'instituts spécialisés pour combattre le cancer. On a eu ici à Montréal un institut du radium, le premier institut d'oncologie qu'on a eu au Québec à partir des années 1920. Mais il y a trop de choses à dire là-dessus. Francine et Yvan, je vais devoir faire une autre chronique pour vous parler spécifiquement de cet institut du radium et de Marie Curie, évidemment, et le travail qu'elle a fait avec l'utilisation du radium dans un cadre médical. Ce sera pour un... J'aurai besoin d'un autre 9 minutes de temps d'antenne à votre émission pour pouvoir vous en parler.
Est-ce que ce sera la semaine prochaine?
Ça pourrait être la semaine prochaine, si vous le souhaitez.
Bien, moi, je trouverais ça intéressant parce qu'on peut rattacher ça à la chronique d'aujourd'hui. Et je pense que ça serait bien. Oui. Nos souhaits sont exprimés.
Parfait. Bien, la semaine prochaine, ce sera l'Institut du radium de Montréal, situé dans le quartier Maisonneuve, incidemment, pour ceux qui veulent commencer à se préparer mentalement.
Merci beaucoup, Marcel. Et puis, bien, faites un bon retour au travail.
Mais je suis en train de faire ça. Bonne semaine à vous.
Au revoir.